Rock and Sobre, la série de reportages qui t'emmène à la découverte d'initiatives locales et durables sur tout le territoire genevois. Ça se passe près de chez nous. On passe à l'action.
Nous démarrons ce Rock and Sob par un point sur l'obsolescence programmée avec Florian Casseur de Greenpeace Suisse, expert en consommation et économie circulaire.
Alors l'obsolescence, vaste concept, c'est la première idée qui me vient en tête. On entend beaucoup parler de cette obsolescence programmée et on a souvent cette image de produits qui sont finalement limités de manière totalement consciente par les fabricants, pour qu'ils se cassent ou ils s'arrêtent de fonctionner à partir d'un certain moment. Effectivement, il y a quelques exemples très connus, notamment une imprimante qui était programmée pour s'arrêter après un certain nombre de pages. D'une manière générale, ça reste quand même assez difficile à mettre en évidence. Et je pense que quand on parle d'obsolescence, il faut avoir une approche peut-être un peu plus large et se rendre compte qu'il y a beaucoup de produits qui s'arrêtent de fonctionner correctement ou qui se cassent simplement parce que la qualité du produit est mauvaise et en fait, c'est simplement une mise en œuvre d'un système économique où les entreprises essayent d'optimiser leurs coûts, c'est-à-dire d'utiliser des composantes bon marché pour maximiser leurs marges. Et c'est ça qui conduit le plus souvent à des produits qui se cassent ou qui arrêtent de fonctionner bien avant en fait, la fin de leur durée de vie telle qu'on l'espère, qu'on l'attend.
N'empêche que l'obsolescence programmée ou anticipée, c'est ce qui génère de nombreux déchets, notamment dans l'électronique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous ?
Alors effectivement, ce problème de l'obsolescence, même s'il a plusieurs aspects, il faut vraiment pouvoir s'y attaquer actuellement parce que la masse de déchets qui sont produits par nos biens de consommation, notamment les produits électroniques, mais on pourrait aussi parler de meubles, de tous les appareils ménagers, il faut pouvoir réduire ces montagnes de déchets. Il faut bien avoir gardé à l'esprit que chaque produit qui est, disons, fabriqué nouvellement, ça consomme des ressources naturelles et ça a un impact sur l'environnement. L'un des leviers, l'une des mesures les plus importantes, c'est de concevoir déjà les produits, donc en tout début du cycle de vie, de les concevoir de manière à ce qu'ils durent longtemps, déjà, et ensuite qu'ils soient, quand il y a une panne ou quand il y a une mise à niveau à faire, qu'ils soient réparables ou justement adaptable à des exigences qui, en raison de l'évolution du temps, des besoins, ont changé. Donc c'est vraiment, d'une manière générale, en prolongeant la durée de vie de nos biens de consommation, qu'on aura vraiment un impact, une réduction de l'impact sur l'environnement. Et je ne pense pas que le levier, effectivement, il soit au niveau du consommateur, mais plutôt au niveau des producteurs et des entreprises qui les mettent en circulation. Donc nous, en Suisse, effectivement, la plupart des biens de consommation, notamment dans l'électronique, ils ne sont pas produits en Suisse. Par contre, ce sont des entreprises suisses, Semigros par Digitec Galaxus, c'est la COP avec ces marques comme Fust ou Interdiscount, ce sont d'autres qui choisissent en fait de les mettre dans leur offre, dans leur sortiment. Et c'est là qu'il y a un levier énorme, parce que des produits qui ont une durée de vie acceptable et qui sont réparables devraient être clairement proposés en priorité aux consommateurs. Ceci afin justement que les produits de mauvaise qualité finalement soient beaucoup moins abordables en fait dans l'offre existante.
Alors ça c'est l'idéal, mais qu'est-ce qui est fait en réalité ?
En réalité c'est que le commerce de détail en Suisse ne veut pas vraiment prendre ses responsabilités et renvoie la balle actuellement aux consommateurs et aux consommatrices en disant oui, nous on a toute la gamme de produits, ce sont à nos clients finalement de décider et de choisir. Et ça, c'est ces entreprises se défaussent de leurs responsabilités. Il faut toujours penser à si les consommateurs et les consommatrices devaient connaître tous les produits et tous les aspects des produits qu'ils consomment. Ça consomme des biens de consommation matérielle, mais on pourrait aussi parler de l'alimentation. Il y a vraiment des dizaines et des dizaines de critères que, lors de chaque achat, on devrait avoir en tête. Donc, pour Greenpeace, c'est tout à fait faux de déplacer la responsabilité sur le consommateur final. Pour nous, ce sont aux entreprises d'agir. On est vraiment dans une situation urgente au niveau climatique et environnemental au niveau global. Et donc, il faut des mesures fortes de la part de ces entreprises pour vraiment réduire la consommation de ces biens problématiques.
Le 26 février dernier, le Conseil national a débattu une nouvelle fois sur la loi sur l'environnement qui prévoit justement ces questions de durabilité, de réparabilité, de longévité. Alors, qu'est-ce qui a été décidé ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est qu'effectivement, au Parlement à Berne, la loi sur la protection de l'environnement a été rafraîchie, on peut dire comme ça, des mises à jour, notamment justement pour favoriser l'économie circulaire, c'est-à-dire la circularité des produits en général, et faire en sorte qu'il y ait un cadre législatif pour favoriser la durée de vie des produits, la réparabilité de ces produits, et aussi l'information concernant justement ces aspects lors de la vente de ces produits. Alors, c'est un pas important pour nous, et on est tout content que le Parlement ait adopté cette révision de la loi sur la protection de l'environnement, mais c'est un début, il faut bien être clair. Pour l'instant, c'est un cadre qui finalement est assez peu contraignant. Donc, on attend des entreprises maintenant qu'elles fassent ces démarches, qu'elles mettent en œuvre ces questions dans leur pratique, disons, de vente au jour le jour. Mais je pars du principe qu'on aura besoin de Greenpeace et d'autres associations à l'avenir pour faire en sorte que ces questions, en fait, finalement, que ces entreprises accélèrent le mouvement et fassent en sorte vraiment qu'on arrête de gaspiller des ressources en raison de produits qui sont utilisés, qui ont une durée de vie beaucoup trop courte.
Est-ce que cette révision de loi vous donne un cadre juridique solide pour aller demain en justice si jamais les industriels et les distributeurs ne respectent pas ces nouvelles mesures en ce qui concerne la longévité des objets et la réparabilité ?
Oui, alors cette loi, elle nous donne différents leviers, différentes possibilités. Pour attaquer en justice, ça on verra, c'est un peu difficile d'anticiper ces questions, mais en tout cas, pour faire pression sur les entreprises, mais finalement aussi sur le Conseil fédéral, parce que c'est le Conseil fédéral qui devra concrétiser ces normes désormais pour faire avancer ce dossier. Et j'exclus pas effectivement que si trop peu de mesures sont prises, on puisse aussi engager des démarches juridiques pour faire avancer les choses et faire en sorte que les bonnets d'âne dans ces questions adaptent leurs pratiques. On a une situation au niveau planétaire qui est déjà très difficile. Donc, de toute façon, il faut plus traîner les pieds, il faut avancer. Et ces entreprises, maintenant, doivent prendre des mesures fortes, justement, pour éviter le gaspillage de ressources.
Rock and Sober dans la quotidienne.
Direction Lausanne, dans les locaux de River Repair, avenue Sévelin. À quelques pas des docks, c'est le bruit des dévisseuses et d'autres outils qui nous accueillent. Nous sommes dans un Repair Coffee, co-organisé par River Repair et la FRC, la Fédération romande des consommateurs.
On peut lui enlever la batterie ou c'est pas normal ? Comme les anciens téléphones, style on tire et puis on peut enlever, non ?
Moi je crois qu'il n'y a rien qui
sort,
en fait. Enfin, j'ai jamais essayé d'ouvrir et j'ai jamais vu un endroit où ça s'ouvrait, quoi.
T'arrives à me passer le truc en plastique, là ?
Ça ?
Celui-là, ouais.
Je m'appelle Thomas Collot, j'ai 20 ans maintenant. D'un point de vue professionnel, j'ai fait une formation d'électronicien CFC et je suis actuellement formateur d'apprenti à l'ETML, assistant de préformation professionnelle. Voilà.
On se rencontre ici dans ce Repair Café. Qu'est-ce qui vous motive à être là ?
Alors, ce qui me motive, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup d'obsolescence programmée et beaucoup de choses qui pouvaient être modifiées simplement par un petit coup de pouce et amener la réparation là où les gens ne la cherchent pas forcément. Donc c'est vraiment donner une deuxième, troisième, quatrième vie à des appareils qui ont déjà bien vécu et prendre exemple sur les vieux appareils de 1960 qui tiennent toujours à l'heure d'aujourd'hui.
Oui, mais la différence, c'est que les vieux appareils de 1960, ils avaient aussi beaucoup de pièces détachées. On avait pour habitude de mettre les mains dedans. Ça s'est un petit peu perdu. C'est moins facile aussi d'entrer dans les objets, d'avoir les pièces.
Tout à fait. C'est toute une course un peu sur les pièces détachées sur eBay, sur des sites de revente un peu de seconde main déjà de base. Donc c'est vraiment faire fonctionner un max de réseaux qu'on connaît, de réparation, trouver des pièces, c'est vraiment le nerf de la guerre, quoi. C'est trouver la pièce qui permet de remplacer l'appareil défaut.
Là, c'est le premier Repair Café qui a lieu ici, enfin que vous organisez en tout cas dans le cadre des partenariats avec la FRC. Quel type d'objet on vous a amené depuis ce matin ?
Alors là, on a eu un caméscope qui ne voulait plus se fermer, donc ça va être un objet plutôt problème mécanique. On a une tablette. On a eu une perceuse visseuse qui avait ce qu'on appelle les charbons un peu usés. Et on avait aussi un faiseur de lait, voilà, hein, je sais pas comment on appelle ça. Appelle ça comment ? Ok. Ah, voilà. Donc on a eu un émulsifieur à lait, à mousse de lait, voilà, qui ne fonctionne plus et dont on cherche une réponse. Voilà.
Là, vous êtes en train de faire quoi ?
Alors, du coup, de remonter une perceuse visseuse pour tester si elle fonctionne ou pas.
C'était quoi le problème ?
C'était que quand elle fonctionnait, soit ça fumait, soit ça s'arrêtait.
Ouais.
Vous vous appelez comment ?
Sylvain.
Qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici aujourd'hui ?
Un petit peu d'éco-responsabilité et puis de vouloir un petit peu réparer les choses plutôt que simplement les jeter puis les racheter.
C'est quelque chose que vous faites couramment ? C'est devenu une habitude pour vous ou vous entrez dans cette démarche avec une réflexion ?
Alors la réparation, je rentre un petit peu dans la démarche qui est un peu une suite logique avec plein d'autres changements dans ma vie, entre autres plus de voiture, uniquement transport public, passage à une alimentation végane et plein de petits éléments de changement de vie et puis donc du coup de voir comment on peut faire survivre des choses plutôt que créer des déchets.
Lauriane Altweg, je suis responsable environnement, agriculture et énergie à la Fédération romande des consommateurs. Alors, il y a beaucoup d'objets qui sont tout simplement pas démontables. Ça, c'est autorisé, hein, mais si je prends un exemple bête, hein, mais une brosse à dents électrique, il y en a beaucoup qui se démontent pas. On peut pas changer la batterie. Donc, une fois que la batterie est morte, en gros, ben, on change l'objet. Il y a aussi beaucoup d'objets dont on va pas disposer, effectivement, on va pas disposer des pièces détachées. Ben, c'est pas une obligation légale. Il y a une obligation légale, hein, pour les pièces détachées, mais ça concerne plutôt du gros électroménager. Et là, c'est vraiment une avancée de ces dernières années. On a repris des dispositions européennes qui obligent les fabricants à mettre à disposition pendant une certaine durée, 7 à 10 ans, des pièces détachées et qui permettent là vraiment de prolonger la vie de ces appareils. Mais ça n'empêche pas que la réparation reste un problème, c'est-à-dire que hors garantie, vous allez devoir payer une réparation qui peut s'avérer très chère et souvent c'est vraiment un frein. Un autre frein, c'est bien sûr le fait que certains appareils sont très compliqués, il faut faire venir un réparateur à domicile, etc. Donc souvent, malheureusement, c'est plus simple d'acheter du neuf. Et justement, l'ambition aujourd'hui, autant au niveau suisse, mais surtout au niveau européen, qui avance très vite sur ces questions-là, c'est justement de rendre l'économie plus circulaire, donc moins linéaire. Ça veut dire qu'au lieu de remplacer un objet toujours par du neuf, on essaie de faire vivre vraiment ces objets le plus longtemps possible. Et ça passe justement par mise à disposition de pièces détachées, mais pas uniquement, hein, aussi prolonger peut-être les garanties sur les objets, mettre en place un droit à la réparation dans le cadre du droit de la garantie aussi. Voilà, tous ces aspects-là, c'est un tout qui ont pour but vraiment de ralentir ce cycle des matières, en fait, pour en consommer moins.
Alors, c'est quoi l'indice de réparabilité ? C'est justement de voir si un objet est plus ou moins réparable. Mais qui donne cet indice ? C'est vous ?
Pour l'instant, l'indice de réparabilité existe en France. Il est très discuté au niveau européen. Et c'est toute une méthodologie, en fait, qui repose sur un certain nombre de critères, en fait. Typiquement, est-ce que des pièces détachées sont disponibles ? Est-ce que les plans de l'objet sont à disposition, etc. Et tous ces éléments donnent une note qui est sur 10 en France, par exemple, et qui permet ensuite à l'acheteur de voir quel est l'objet qui est le plus réparable et donc qui aura potentiellement une plus longue durée de vie. Et c'est quelque chose qu'on pourrait avoir en Suisse grâce à la révision justement de la loi sur la protection de l'environnement. Mais il faudra encore batailler ferme, hein, pour l'obtenir parce que c'est une disposition que peut utiliser le Conseil fédéral et donc qu'il n'utilisera pas forcément, sauf si on fait vraiment pression.
Et le droit de la garantie aujourd'hui, où en est-on en Suisse ?
Alors, ça fait 100 ans, je pense, qu'il n'a pas été révisé et il va être révisé. Donc, c'est une excellente nouvelle. Surtout qu'en fait, dans ce droit de la garantie, il n'y a pas de droit à la réparation. Ce droit à la réparation, c'est le fait que quand on a un objet qui est encore sous garantie, on le ramène chez le vendeur, il n'est pas obligé de le réparer. Il peut vous donner un neuf, il peut vous rembourser. Donc, le client, bien sûr, il est satisfait. Mais derrière, souvent, l'objet, il est jeté. Et là, c'est une source de grands gaspillages. Et là, on pourrait introduire dans cette révision ce droit à la réparation, comme c'est déjà le cas au niveau européen depuis 20 ans. On voit qu'il y a un mouvement actuellement vraiment qui lutte pour cette économie circulaire et puis pour faire durer plus les objets. Il y a de plus en plus de consommateurs qui sont aussi derrière pour des raisons économiques comme environnementales. Hein. Il n'y a pas que les questions d'environnement qui intéressent, mais voilà, de faire durer un objet, bien sûr, ça évite de devoir directement en racheter un aussi. Donc, on voit quand même un mouvement dans ce sens et on voit surtout une pression au niveau européen parce que l'Europe a vraiment ce plan d'action économique
circulaire, le Green Deal, etc., qui font qu'on va vers des mesures qui soutiennent ce mouvement-là. Mais effectivement, il reste encore énormément à faire et la Suisse, elle a plutôt tendance à traîner des pieds comparé aux voisins européens. Et c'est pour ça que, en attendant aussi que réellement l'offre s'améliore, on a besoin de plus d'informations. Nous, consommateurs, il faut qu'on sache que quand on achète un objet, oui, je vais pouvoir le réparer, oui, les pièces détachées sont disponibles pendant 10 ans et je sais que je fais un choix. Si c'est un objet en particulier qui a un impact sur l'environnement important, je sais que cet objet, je l'ai en tout cas pour 10 ans.
Rock and Sober dans la quotidienne.
L'association No Ops a fait de l'obsolescence programmée son cheval de bataille. No Ops signifie d'ailleurs No Obsolescence Programmée Suisse. Cette association, qui a été jusque devant les tribunaux pour dénoncer des pratiques de la marque Apple, s'inscrit pleinement dans l'économie circulaire en récupérant d'anciens téléphones portables et autres objets pour en récupérer les composants. Reportage dans l'atelier de No Ops à Plein-les-Ouates dans l'espace Tourbillon.
Alors Thomas Putala, je suis le président de l'association NOOPS et puis donc je suis ravi de vous accueillir ici au Centre Social Protestant où nous avons notre atelier de démontage des équipements électroniques, des smartphones et des tablettes que nous collectons sur l'ensemble de la Suisse romande.
Christian Hébert, valorisateur en matière secondaire pour la société Ordeben, partenaire avec NOOPS.
Alors les locaux se situent au deuxième étage de l'espace Tourbillon. Ici au Centre Social Protestant, nous avons la chance de pouvoir bénéficier d'une collaboration avec le Centre Social Protestant, la brocante La Renfile. Et donc ici, là, on commence cette interview, on est justement dans la brocante du CSP où il y a plein d'objets qui sont à vendre, mais il y a aussi des objets qui doivent être triés, valorisés, avant d'être vendus, mais aussi des objets qui ne peuvent pas être vendus. Et donc, nous, on travaille justement en collaboration avec le Centre Social Protestant sur ces objets qui ne peuvent pas être vendus pour les démonter et puis les mettre dans des filières de valorisation de métaux. Donc là, on monte justement à l'étage, au deuxième, où on a notre petit atelier de démontage de smartphones et de tablettes. Voilà Grégory, qui est notre démonteur agréé.
Alors, en tout premier lieu, en général, j'enlève la batterie, on dépollue le téléphone en fait, on appelle ça comme ça. Et puis, j'enlève donc tout ce qui est vis, dans la grande majorité, les vis, j'ai un aimant là, donc ça reste dans le coin. Donc ensuite, on enlève tout ce qui est polymère, donc tout ce qui est plastique. Ça, ce genre-là, si j'ai pas de métal dedans, tac, je peux le mettre directement dans de l'incinérable. Ça, je vois qu'il y a encore des métaux dedans, etc. Je mets ça dans Suico. C'est un mélange de tout ce qui est métal, plastique, etc. Là, je peux récupérer, c'est le tungstène. Donc, c'est une pointe de tungstène. Ça, c'est le vibreur. Donc, ça, on peut récupérer. Hop. Il y a aussi tout ce qui est écouteur. Donc là, vous avez un fil de cuivre et un aimant à l'intérieur qu'on peut récupérer. Tac. Et par la suite, là j'enlève tout ce qui est métal sur la carte tac, pour arriver à une carte mère en fait, une carte riche comme ça, où vous avez une douzaine de métaux à récupérer là-dedans, dont de l'or, d'argent, etc. Voilà.
Donc c'est plutôt d'accompagner les matières qui ont été assemblées à la main, d'être démontées à la main, au lieu d'être abrutis, corrompus, dans des démontages excessifs mécaniques. On peut donner des chiffres. Donc la mine urbaine, une tonne de cartes électroniques dont on extrait les métaux peut donner environ, juste pour le métal or, 40 grammes. Une mine première, dont le gisement est extrêmement fort, sera au maximum 4 grammes la tonne. Et habituellement, ça oscille à 0,4 grammes la tonne. Donc, on peut voir que la mine urbaine est plus riche dans la mesure qu'on la traite. Donc, on s'est donné comme mission de valoriser au mieux le gisement sur un projet durant toute l'année, à valoriser le maximum de matière avec une équipe professionnelle de démonteurs. Et le fil rouge qu'on propose, c'est d'affiner sur place et de déplacer des matières triées. Une grande différence entre déplacer des matières à trier ailleurs, donc déplaçant de notre vue nos excédents pour nous permettre de consommer plus. Nous, on propose une réindustrialisation locale, de valoriser sur place. Donc, on récupère chacune des matières qu'on réinjecte dans sa filière pour redevenir des matières. Donc, par exemple, on a un projet pilote ici où on récupère les aimants permanents d'ordinateurs et divers, avec un partenariat avec un laboratoire de Grenoble qui, eux, extrait les terres rares pour refaire des aimants sur place. Donc, on trouve également les différentes matières, le fer, l'aluminium, le cuivre fil, les cartes électroniques qui, avec un partenariat avec une usine en Suisse qui, par la pyrométallurgie, va réussir à extraire plus de 12 métaux.
Les appareils qui sont traités ici sont les appareils qui ne peuvent pas être commercialisés. Donc, c'est les appareils qui ne peuvent pas être reconditionnés, donc c'est les appareils plus anciens ou des appareils qui sont récents mais qui ont un cloud bloqué. Donc, le système, on ne peut pas les remettre en vente, ces appareils. Donc la première phase, ben, c'est le diagnostic qui a lieu chez Realize, notre partenaire aux Acacias. Et puis donc ces appareils qui ne peuvent pas être conditionnés sont ramenés ici. Et donc on a par exemple un lot ici qu'une entreprise nous a cédé, qui est sous clé, où là on nous a demandé de détruire les cartes mères pour des questions de sécurité. Donc ces appareils, jusqu'à aujourd'hui, ben, ils partaient dans des filières de démantèlement qui n'étaient pas ici sur Genève. Donc nous, ce qu'on a proposé à cette institution, c'est de nous confier les appareils pour qu'on les démonte et qu'on détruise les équipements électroniques. Et puis, on a aussi des appareils plus récents qui sont bloqués à travers des questions de sécurité de cloud. Et ces appareils-là, on les démonte pour les mettre à disposition de réparateurs, des pièces détachées. Et il y a beaucoup de réparateurs qui cherchent en fait une simple vitre, une coque ou une caméra. Et à travers ce type de service et notre expertise dans le démontage des appareils, on donne la possibilité à d'autres appareils de prolonger leur durée de vie. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois qu'un citoyen, une citoyenne suisse achète un produit électronique, il paye à la caisse de son achat ce qu'on appelle la taxe anticipée de recyclage. C'est le principe du pollueur-payeur. J'achète un objet, je dois contribuer à l'élimination de cet objet. Et puis, ce que nous, on constate, en tout cas sur la filière de l'électronique, c'est que les caisses sont pleines. Et donc, le consommateur a payé bien davantage que le coût de l'élimination dès lors que le gisement qui est issu de ces produits électroniques commence à rapporter de l'argent au motif qu'on améliore la valorisation des matières. Et donc, cette taxe anticipée de recyclage, elle va au mauvais endroit. Ce sont les fabricants et les distributeurs de ces produits électroniques qui, aujourd'hui, doivent faire un effort et puis réorienter ces flux financiers vers des actions telles que les nôtres.
On dit taxe anticipée de recyclage. Aujourd'hui, elle devrait être baptisée la taxe anticipée du paiement des transports pour exporter ces matières à l'extérieur.
En démontant, on réduit les volumes des invendus, donc ce qui fait qu'on va également limiter les impacts carbone, puisqu'il y aura moins de transport pour évacuer ces invendus. Donc nous, on ne parle pas de déchets, on parle d'excédents. Et puis ces excédents, à partir du moment où ils sont dans des filières, eh bien on parle de matière et on boucle la boucle. Contrairement à ce qui est fait aujourd'hui, où on élimine les objets et on les évacue hors de Suisse.
Radio-Vostok.ch